Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Patrimoine et architecture hospitalière. De la Panacée et Saint-Charles, Saint-Éloi, la Colombière, à la Nouvelle Faculté. Un documentaire proposé par Divergence FM. Pierre Tour, architecte installé à Montpellier depuis 1971 avec son style contemporain et post-moderniste, nous parlera de l'histoire architecturale des hôpitaux montpelliérains. Puis, en seconde partie de documentaire, François Fontès, architecte et urbaniste, à qui l'on doit notamment le lycée Jean Monnet, le musée Agropolis ou encore l'hôtel de ville de Montpellier avec Jean Nouvel, nous parlera de sa réalisation qu'est la nouvelle faculté de médecine.
Bonjour Pierre Tour.
Bonjour.
Alors, cette histoire des hôpitaux à Montpellier, auquel vous intéressez particulièrement, vous me disiez, on peut la faire remonter au XIIe siècle à peu près.
Tout à fait. C'est l'époque d'ailleurs de la création de la faculté de médecine, puisque en fait cette année c'est 800 ans. Et on peut situer un des premiers établissements hospitalier, on appelait ça la maladrerie de Saint-Lazare, dite de Castelnau d'ailleurs, puisqu'elle était située sur l'emplacement de l'actuel cimetière Saint-Lazare. Et c'était organisé autour d'une chapelle, comme on le verra bien souvent pour les hôpitaux futurs. Et c'était bien sûr réservé à ce qu'on appelait les ladres ou les lépreux. Puisqu'au retour de croisade, il y a eu la lèpre, vous savez, ça a été... C'est largement répandu et donc il fallait traiter ces malades. Et bien sûr, c'était à l'extérieur de la ville. Mais on ne gardait pas les gens malades à l'intérieur des villes. Donc ça, c'est 1138. C'est vraiment un des premiers établissements recensés à Montpellier. Après, il y en a un deuxième qui est assez caractéristique. C'est l'hôpital Saint-Éloi, qu'on connaît actuellement, mais qui initialement était près de la rue de Verdun. Enfin, la rue de Verdun qui n'existait pas à l'époque, mais à peu près pour le situer. Et en 1650, il a été transféré à l'intérieur des remparts, au bas de l'actuelle rue de l'Université, et ça s'appelait l'Hôtel Dieu Saint-Éloi. Et ensuite, il a été abandonné en 1890 pour la construction de l'actuel hôpital Saint-Éloi, donc qui est sur le modèle de plan pavillonnaire, qui était, disons, le modèle très répandu au XIXe siècle, et dont on pourra reparler un petit peu plus tard sur l'évolution des plans des hôpitaux. Donc, cet hôpital Saint-Éloi était vraiment un élément très marquant de l'architecture hospitalière de Montpellier, puis finalement, il y a eu 3 établissements. Il y en a un deuxième aussi qui est fort important, c'est l'îlot Saint-Charles. L'îlot Saint-Charles, il a été construit en 1682, là c'était suite à des décisions royales, de doter toutes les grandes villes de province d'un hôpital général qui était destiné aux pauvres. Et on disait les pauvres, quand on disait les pauvres, les mendiants, enfin c'était une population qu'on avait plutôt tendance à enfermer à l'époque. Et l'hôpital était fait à la fois pour soigner, mais pour quand même un peu enfermer, et puis on les faisait travailler aussi d'ailleurs. Et il était organisé autour d'une chapelle, la chapelle Saint-Charles, qu'on voit actuellement, et qui a été bien conservée et rénovée, qui a été construite en 1744, je crois, par l'architecte Giral, qui est l'architecte qui a réalisé le château d'eau du Pérou, entre autres. Cet îlot Saint-Charles était caractéristique, c'est ce qu'on appelait un hôpital en grille, un plan en grille. C'est-à-dire, à partir de la chapelle, il y avait des bâtiments qui se développaient sous forme d'une grille, avec d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, puisque les hommes et les femmes, bien sûr, n'étaient pas mélangés. Et donc, il y avait cet hôpital général, la chapelle. Et puis, il y a eu encore une évolution en 1930, c'est qu'on a construit les cliniques Saint-Charles. C'était là un hôpital bloc qui a été en service jusque dans les années, je ne sais plus, 1990-2000, où il a été cédé par le CHU, un promoteur qui l'a transformé en logement. Donc, si vous voulez, l'îlot Saint-Charles, c'est le deuxième îlot hôpital très marquant dans la ville de Montpellier, avec Saint-Éloi. Et ensuite, il y a eu une troisième époque, si on peut dire. Ça a été la réforme qu'a menée Robert Debré en 1958, qui a réuni les grands hôpitaux et les facs de médecine. Et à partir de là, le CHU a abandonné l'hôpital général Saint-Charles, qui était vieux de trois siècles. Il a construit quatre nouveaux hôpitaux. Guy de Chauliac à côté de Saint-Éloi, la Péronie qu'on connaît bien, très grand hôpital, Arnaud de Villeneuve au nord de la Péronie, qui est à la fois, qui comporte deux grands de spécialité, la pneumocardio d'un côté et l'hôpital mère et enfant de l'autre. Et également le centre Antonin Balmès de gérontologie qui est situé sur le site de la Colombière. Et ont été rénovés en même temps la Colombière qui est dédiée, vous le savez, à la psychiatrie. Donc, et bien sûr, Saint-Éloi a aussi été rénové, l'hôpital Falconer a également été rénové. Donc voilà, très, très sommairement, très succinctement, cette histoire des hôpitaux de Montpellier. Bon, je n'aurais garde d'oublier des établissements comme le centre anticancéreux, le CRLC, qui est situé donc au nord de Montpellier, dans la zone euromédecine, et puis bien sûr les nombreuses cliniques privées, dont certaines datent de fort longtemps aussi, et qui sont en perpétuelle évolution. On voit la clinique Saint-Jean qui a déménagé, enfin il y a Saint-Roch qui a déménagé il y a quelques temps, enfin il y a une histoire des cliniques de Montpellier qui est à souligner, qui est assez remarquable également. Il y a un point qui est à souligner, c'est que l'architecture hospitalière a toujours été, disons, traitée d'une manière technique assez en avance au niveau des techniques de construction. Et bon, au Moyen-Âge, c'était une grande nef, parce qu'on avait déjà à l'époque un grand souci de l'hygiène. Donc on cherchait à construire une nef, donc c'était une grande salle voûtée, bien sûr assez haute sous la voûte, et qui permettait une bonne ventilation, puisque on pensait et on savait qu'il fallait que les miasmes, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque, que les miasmes puissent s'en aller, et donc il y a une grande ventilation avec un appel d'air qui se faisait en haut de la voûte. Donc, les plans de ces hôpitaux au Moyen-Âge, c'était des grandes nefs. Des grandes nefs, un peu comme une nef d'église, et les malades étaient, donc c'était bien sûr des salles communes, et les malades étaient situés de part et d'autre, pas trop près, puisqu'il ne fallait pas que de l'un à l'autre ils se communiquent, bien sûr, leur maladie. Donc, voilà le principe qui était le principe du Moyen-Âge. À l'époque classique, ce principe a été décliné en forme de croix et de cours. Donc on gardait toujours le principe de ces nefs, mais on les disposait un petit peu différemment, disons on avait un plan qui évoluait encore. Et puis à l'époque industrielle, disons qu'il y a eu l'apparition de beaucoup plus de spécialités dans la médecine, donc on a vu apparaître le plan dit pavillonnaire, dont Saint-Éloi est vraiment un exemple tout à fait marquant. Et ce plan pavillonnaire, il y avait un axe central avec des fonctions communes, Et de part et d'autre, il y avait des pavillons avec des spécialités. Et là aussi, à Saint-Éloi, on retrouvait au rez-de-chaussée ou au rez-de-jardin, disons, des fonctions de service. Et à l'étage, des grandes salles communes, très hautes de plafond, avec des charpentes bois, un lanterne en haut par lequel l'air pouvait s'évacuer. Et là aussi, la ventilation était particulièrement bien traitée. Et enfin, l'évolution suivante, ça a été les hôpitaux blocs du XXe siècle, comme Saint-Charles, un exemple, comme Guy de Chauliac aussi, où là, compte tenu bien sûr des moyens de transport verticaux qui ont évolué avec les ascenseurs et les montes malades, on a pu superposer, des services et on a évité un étalement. Une des préoccupations principales dans les hôpitaux, c'est que le personnel, en général, c'est des services de 25 lits maintenant. C'est organisé donc un service de 25 lits. Et il faut qu'au centre du service, il y ait ce qu'on appelle les locaux de soins, dans lesquels il y a les infirmières, les médecins, et qu'ils aient une surveillance assez facile des 25 lits. En général, c'est 19 chambres individuelles et 3 chambres à 2 lits. C'est les standards actuels. Donc, on a une surveillance assez facile pour le personnel médical, bien sûr des malades, qui n'aient pas trop de distance à parcourir. Quelle est l'évolution actuelle maintenant par rapport aux hôpitaux blocs? Disons que l'évolution est surtout marquée par le fait que les services de consultation et de ce qu'on appelle l'investigation ont pris beaucoup plus d'importance par rapport aux hébergements. Mmh. Puisque vous le savez, on favorise les interventions soit en ambulatoire et les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts. Oui. Donc, la partie hébergement dans un hôpital a diminué au profit des parties consultation et tout ce qui est salle de radiologie, de chirurgie ambulatoire, par exemple, et autres. Voilà. Donc voilà, si j'essaie de résumer pour ne pas rentrer trop dans le détail, les grandes évolutions de l'architecture hospitalière jusqu'à nos jours. Il est certain que la téléconsultation, les opérations par des robots chirurgiens vont amener très certainement des évolutions dans le cadre à la fois hospitalier de la médecine de ville. Il y a aussi une évolution qu'on constate. Moi, actuellement, je travaille sur certains hôpitaux. Et la pandémie que nous vivons actuellement avec la Covid amène aussi à créer des services qui sont particulièrement, on a des chambres avec des staffs qui permettent bien sûr d'avoir une dépression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on arrive, si vous voulez, à préserver les autres malades par rapport aux malades du Covid, puisque c'est un des grands soucis, qu'il n'y ait pas de diffusion de cette maladie. Que ce soit dans des services de réanimation qui prennent une importance plus grande, puisqu'on a vu qu'en France, on manquait de lits de réanimation. Donc là, moi, je suis en train d'étudier, par exemple, sur l'hôpital Nord à Marseille, des services de réanimation, et on nous a demandé de prévoir certains box avec des SAS, des traitements d'air particuliers. Donc, il y a forcément cette épidémie, cette pandémie va forcément influer sur certaines parties hospitalières. Ça, c'est évident. Au-delà d'une évolution plus générale dont on parlait avant, télémédecine, téléconsultation, etc. Et de toute façon, ce qu'on voit qui ne fait que s'accroître et s'accélérer, c'est les interventions en ambulatoire. Ça, il y en a vraiment de plus en plus. et pour des interventions qu'on n'aurait jamais imaginées, et des séjours qui sont vraiment de plus en plus courts. Donc, ça amène, alors ce qui a été d'ailleurs un peu reproché, ça amène, c'est vrai, à une réduction du nombre de lits, parce qu'il y a moins de patients en permanence, puisque les séjours sont plus courts, donc il y a une rotation plus grande.
Tout de suite, on retrouve François Fontès, architecte et urbaniste, à qui l'on doit notamment le lycée Jean Monnet, le musée Agropolis ou encore l'hôtel de ville de Montpellier avec Jean Nouvel. Il nous parle de sa réalisation qu'est la nouvelle faculté de médecine.
Le métier, c'est un métier d'architecte, mais c'est également... Compte tenu des études que j'ai poursuivies à la fois à l'école d'architecture et puis l'université Paul Valéry à Montpellier, des études d'histoire de l'art, d'archéologie, de géographie, j'ai un peu touché à des domaines qui sont complémentaires avec l'architecture, de façon à avoir un regard qui soit à la fois dans la modernité mais également dans l'histoire. Ce sont les sciences humaines qui participent beaucoup à la réflexion fondamentale de l'architecture, et ça de tout temps, qui ne sont pas forcément des enseignements qu'on a tout le temps en permanence dans les écoles d'architecture, mais qui sont merveilleusement bien faits à l'université Paul Valéry, qui a toutes les compétences dans ce domaine-là, quoi. Et je crois que c'est ce qui me permet d'avoir un peu une vision qui préserve l'histoire et qui la projette dans la modernité. Et c'est un petit peu ce que j'ai souhaité faire sur la faculté de médecine de Montpellier, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui soit très contemporain, mais qui se préoccupe également de ce qu'a été l'histoire de la faculté de Montpellier au travers des 8 siècles qui viennent de s'écouler. Il y a à la fois une forme de complexité, une spécificité très évidente, et puis comment retranscrire dans la modernité cette faculté de médecine dont l'historique... est tout à fait remarquable. Montpellier a la plus vieille université mondiale en activité, et cette transition entre les siècles passés et les siècles qui vont se présenter devant nous, c'est un enjeu pour un architecte excessivement passionnant. Déjà toujours des spécificités, c'est-à-dire que l'architecture ne peut être qu'un projet contextuel, c'est-à-dire on répond à un contexte, on répond à un programme, on répond à une histoire, et on ne peut pas faire le même bâtiment à Montpellier qu'à Lille ou qu'à Nancy. Donc il y a toujours une prise en compte des spécificités méditerranéennes, pour le cas de Montpellier, qui seront pour moi fondamentales. Tous ces bâtiments que j'ai conçus, ils ont toujours répondu à ce paradigme essentiel qui est de dire on est dans une région particulière, c'est la région méditerranéenne de Montpellier, on va répondre comme tel. Quels sont les apanages de l'architecture méditerranéenne? C'est essentiellement un travail sur l'ombre et la lumière, mais c'est un travail également sur l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, et surtout la façon dont on va traiter les espaces de rencontre. Parce que les lieux d'enseignement, par exemple les lycées, le lycée Ios grec était, avant d'être un lieu d'enseignement, c'était un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et c'est toujours ce que j'essaye de faire dans mes bâtiments, c'est qu'au-delà de la spécificité basique et rationnelle qui est celle d'enseigner, il faut que les gens arrivent à se rencontrer. Parce que c'est dans le domaine de la rencontre que l'enseignement prend toute sa dimension et toute sa mesure. Alors, il est certain que la relation étroite entre une faculté de médecine et les lieux de soins, qui sont en l'occurrence le CHU, est une chose importante, puisque la proximité permet des échanges entre le personnel soignant, qui sont d'ailleurs très souvent des professeurs à la faculté de médecine, et puis les étudiants. À Montpellier, ça a toujours été le cas. La faculté de médecine qui était située à côté de la cathédrale Saint-Pierre avait à côté toute une série d'hôpitaux. Hôpital Saint-Charles, et puis antérieurement, il y avait déjà des hôpitaux dans la périphérie de la faculté. Là, le terrain qui a été très justement utilisé, il est à côté du CHU, route de Ganges. Donc cette proximité crée des liens étroits entre les enseignants praticiens hospitaliers et les étudiants, et je crois que c'est tout à fait souhaitable. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord d'avoir une grande transparence entre l'intérieur du bâtiment et le parvis, parce que c'est ce lieu de transition qui est un lieu d'échange fondamental. Et puis on a créé cette grande nef au milieu du projet, qui est dans la continuité d'un bout à l'autre du projet et qui permet à l'ensemble des étudiants de se rencontrer, mais également ils ont la capacité d'avoir des connexions très rapides vers le CHU, d'y croiser également les enseignants, de pouvoir avoir dans cette centralité des lieux d'exposition, des lieux de conférences ponctuelles, et d'être très en relation avec les amphithéâtres qui sont, au-delà des lieux d'enseignement, également des lieux de rencontre où on peut faire des conférences qui n'ont rien à voir avec l'enseignement tel qu'il est édifié par les instances de la faculté. Donc tout ça permet d'avoir une espèce de foisonnement à l'intérieur de la faculté, et c'était un petit peu mon souhait, c'est-à-dire c'est pour ça que j'avais un peu dilaté les espaces qui programmatiquement m'étaient demandés, de donner des surfaces beaucoup plus grandes, de façon à ce que ça devienne vraiment des lieux de rencontre.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.